Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Après 20 jours de reconfinement en France, les premiers effets se font sentir dans les laboratoires. Moins de tests positifs au Covid-19, dit le ministre de la Santé, alors que les effets économiques, eux, s'annoncent considérables dans certains secteurs. À 2 semaines de l'ouverture des stations de ski, par exemple, nous irons en Haute-Savoie dans un instant. Des formations pour lutter contre le sexisme chez McDonald's. Voici ce que propose l'enseigne après plusieurs accusations de ses salariés. Explication dans cette édition. Et puis nous analyserons les résultats de la présidentielle en Moldavie. Une pro-européenne vient d'être élue première présidente du pays, vous l'entendrez. Tout porte à croire que nous avons passé un pic. Voici les mots ce matin dans la presse du ministre de la Santé. Olivier Véran s'exprime dans les journaux régionaux du groupe EBRA, Est-Bourgogne-Rhône-Alpes. Il affirme que le nombre de nouveaux diagnostics Covid baisse en France, tout comme le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de contaminations par personne. Il est toutefois encore trop tôt pour relâcher nos efforts, voilà ce que dit le ministre de la Santé. Le confinement est donc toujours de mise pour le moment et l'avenir reste incertain, notamment pour les professionnels qui ont dû fermer boutique. Dans les stations de ski, comme à Laclusaz en Haute-Savoie, c'est le cas. Laclusaz où s'est rendu Rémi Brancato à l'aube du début de saison.
À Laclusaz, comme partout, la plupart des commerces sont fermés, alors on en profite pour faire quelques travaux ou du rangement.
Je déballe la marchandise pour une ouverture 2021 ou 2022, on ne sait pas.
Dans sa boutique, Christelle attend les touristes.
Donc, si on fait pas Noël, c'est un peu la catastrophe, mais on a des bonnes banques. C'est le 4e emprunt sur ma tronche, mais c'est pas grave.
Le premier rendez-vous à ne pas rater, c'est Noël, et Aurélie, dans son magasin de vêtements de sport, s'inquiète.
Faire une croix dessus, c'est faire une croix sur beaucoup de choses. Si l'amputation de la saison doit se prolonger, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'enchaîner un remboursement de crédit, un loyer, et de payer nos fournisseurs?
Alors beaucoup ont repoussé les contrats des saisonniers qui devraient déjà être là, mais pour les pistes, Laclusaz maintient pour l'instant le 5 décembre comme date d'ouverture. 1000 saisonniers doivent y travailler, rappelle Michael Donzel, le premier adjoint.
On est en pleine période de recrutement sur les remontées mécaniques. Donc Laclusaz recrute pour le jour J du déconfinement qu'on espère.
Pour Jean-Philippe Montfort, le directeur de l'office de tourisme, il faut rassurer les futurs clients.
On est en lien direct avec les services de santé pour avoir des tests antigéniques. Le montagnard s'est toujours adapté à la pente, aux conditions météorologiques. On appréhende cette situation exactement de la même manière, en s'adaptant.
Car la saison d'hiver est capitale, elle représente 70% des revenus de la commune.
C'était Rémi Brancato en Haute-Savoie. Allons maintenant un peu plus au sud, dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Ce département ne compte que 9 libraires, quand il y en a par exemple une centaine rien que dans le 5e arrondissement de Paris. La fermeture des librairies en temps de confinement est-elle donc une problématique métropolitaine et bourgeoise? Certains s'en font l'écho ces derniers jours, mais Guillaume Husson ne veut pas le laisser croire. Il est délégué général du syndicat de la librairie française et il s'en explique.
Il y a des librairies partout en France, dans tous les départements, dans plein de petites villes, dans plein de bourgs. Donc il y en a beaucoup dans les métropoles, naturellement, parce que c'est là où sont concentrés la majorité des lecteurs. Mais le phénomène, au contraire, qu'on voit depuis pas mal d'années, ce sont des personnes souvent en reconversion, qui viennent d'univers professionnels très divers, et qui souhaitent réaliser leur rêve en créant une librairie, mais à la fois sur un projet économique, mais beaucoup sur des projets de vie aussi, qui vont créer des librairies dans des régions qui leur plaisent, où ils ont envie de s'investir. Et donc là, on est dans la toute petite ville, voire dans les bourgs. C'est un vrai phénomène que l'on voit depuis pas mal d'années. Il y a des formations qui ont été mises en place pour ces personnes en reconversion qui veulent former des librairies. Et depuis plusieurs années, ces formations font sale comble à chaque fois. Donc il y a un vrai phénomène de ce côté-là. La librairie et la lecture, ça n'est pas qu'un phénomène métropolitain, fort heureusement.
Des propos recueillis par Thomas Larabie alors que débute sur France Culture une journée consacrée aux livres et aux libraires. Toutes les émissions, ou presque, y seront dédiées ce lundi. À 6h34 sur France Culture, nous en venons à ces révélations successives à propos de la chaîne de restauration rapide McDonald's. Des dirigeants de restaurants accusés de sexisme, de grossophobie ou de harcèlement. L'enseigne s'engage finalement à lutter contre ces dérives. Cela passera par des mesures de prévention, avec notamment des formations. Et puis la fin, Sarah Ders, la fin du port obligatoire de la jupe pour les salariés EES.
Leur célèbre slogan publicitaire « Venez comme vous êtes » ne s'applique pas à tous les salariés de McDonald's, notamment
aux femmes. Au moins une centaine d'entre elles disent avoir subi des remarques sexistes, grossophobes, avoir été obligées d'être en caisse parce qu'elles ont de gros seins ou au contraire en cuisine parce qu'elles sont moches, avec une obligation de porter une jupe souvent trop serrée, même si théoriquement, selon l'enseigne, la salariée a le choix. Une obligation donc abolie et la promesse de nouvelles formations des encadrants aux questions de sexisme et de harcèlement au travail, pas suffisant pour Myriam, porte-parole du collectif d'anciens salariés MacDroit.
On n'a pas eu l'impression d'être réellement écoutés. On n'a pas eu de possibilité d'échange, par exemple, sur le contenu de ces formations. Ils peuvent très bien faire des formations et qu'il ne se passe rien durant ces formations, ou que ce ne soit pas des propos qui soient adaptés à des réelles situations de discrimination. Donc ça les engage sans réellement s'engager là-dessus. On est plutôt très déçus de ne pas avoir pu réellement engager un dialogue. En fait, on a fait face à un mur sur ces situations-là. McDo respecte tout simplement pas la loi par rapport à ses obligations en tant qu'employeur. Dans l'ensemble des 114 témoignages, il n'y a rien qui est mis en place pour protéger les victimes.
Face à ces accusations, l'enseigne rétorque des chiffres. 25 sanctions disciplinaires sur les 18 derniers mois pour des comportements sexistes ou des cas de harcèlement au travail et prétend lutter contre ces discriminations en renforçant la prévention, tout en rappelant toutefois que la plupart de ces 1500 restaurants en France sont détenus par des chefs d'entreprise indépendants.
Sarah Ders pour France Culture. Le procès des attentats de janvier 2015 reprend aujourd'hui après 2 semaines d'interruption. Et sachez que dans le même temps, devant une autre cour d'assises de Paris s'ouvre le procès de l'attaque du Thalys. C'était en août 2015. L'attentat n'avait fait que, si l'on peut dire, que 2 blessés, presque par miracle, car plusieurs passagers, parmi lesquels des militaires américains, avaient réussi à maîtriser l'assaillant. Ce dernier devra répondre à partir d'aujourd'hui de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le président Emmanuel Macron s'est plaint auprès du quotidien américain The New York Times de la couverture par plusieurs médias de langue anglaise des récents attentats djihadistes en France, notamment à l'encontre de Samuel Paty. Il les accuse de légitimer la violence en ne comprenant pas le contexte français. Un journaliste du New York Times avait par exemple estimé qu'Emmanuel Macron cherchait à imposer leurs propres valeurs à une société différente. Camille Magnin reviendra sur ces relations tumultueuses entre Emmanuel Macron et la presse anglophone. Ce sera dans la revue de presse internationale à 7h35 sur France Culture. Le président français, qui sera par ailleurs contraint à un exercice d'équilibriste aujourd'hui, il reçoit le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui n'a toujours pas reconnu la défaite de Donald Trump et donc la victoire de Joe Biden. Mike Pompeo avec Emmanuel Macron donc aujourd'hui. La présidentielle moldave maintenant, elle s'est achevée dans la nuit avec un plébiscite pour la candidate réformiste Maia Sandu avec 57% des suffrages. Cette pro-européenne est la première femme à accéder à la présidence de cette ex-république soviétique, Stéphane Sioan.
En élisant Maia Sandu, la Moldavie a peut-être enfin décidé de sortir de l'ornière. La candidate du camp réformiste, ancienne économiste à la Banque mondiale, âgée de 48 ans, a été élue avec 57% des voix exprimées. Maia Sandu prend ainsi sa revanche contre le président sortant, le pro-russe Igor Dodon, qui il y a 4 ans l'avait emporté. Seulement, les vents ont tourné dans ce pays de 3,5 millions d'habitants, le plus pauvre d'Europe, dont un tiers de la population a émigré. Traditionnellement, la Moldavie voyait s'opposer des candidats pro-russes, conservateurs, orientés sur la politique du Kremlin, et des forces oligarchiques dites pro-européennes qui ont souvent utilisé le rapprochement avec Bruxelles pour masquer leurs affaires corrompues. Maia Sandu est certes pro-occidentale, mais elle détonne dans le paysage car elle est réputée intègre et elle a basé sa campagne sur la réforme de la justice, l'état de droit et le renforcement des institutions. Ce discours arrive tout doucement à transcender la géopolitique, les divisions Est-Ouest, ainsi que le clivage entre russophones et roumanophones. C'est un programme qui a conquis les électeurs de la capitale, Chisinau, mais c'est surtout la diaspora, poussée au départ par des années de marasme, qui a fait pencher la balance.
Stéphane Sioan pour France Culture. Sachez enfin que la fusée Falcon 9 a décollé avec succès depuis le centre Kennedy en Floride cette nuit, un peu avant 1h30 du matin. C'est la première mission habitée opérationnelle menée par la NASA avec une entreprise privée, j'ai nommé SpaceX. La première aussi depuis 9 ans. L'équipage de 4 astronautes devrait atteindre la station spatiale internationale demain vers 5h du matin, heure française. La journée en France métropolitaine débutera sous un temps souvent très nuageux, humide sur le quart nord-est, mais ce temps va progressivement s'améliorer avec quelques belles éclaircies. Ce matin, il fait 9 degrés à Limoges, 11 à Lille, 11 degrés à Lille, à Brest et à Strasbourg, 12 à Paris et Bordeaux, 15 degrés le long de la Méditerranée. Il est 6